Merci.
Merci Aziz. Il est déjà 11h39 ici à Kinshasa, donc sans tarder, nous allons aborder la session des questions et des réponses, mais nous restons dans le domaine des droits de l'homme. Merci d'adresser votre première question à notre invité spécial. Est-ce que ici, quelqu'un a une question pour Aziz Choy? Personne. Est-ce qu'à Goma, quelqu'un a une question pour le directeur du bureau conjoint aux droits de l'homme? Bon, alors ça reviendra après, j'imagine. Donc, une question ici, monsieur. Question. Attendez, prenez le micro, présentez-vous.
Oui, je me nomme Le Petit Bayende, je suis du groupe des presses L'Avenir. En fait, j'ai une préoccupation, mais ce n'est pas dans le cadre des droits de l'homme, c'est pour ce qui concerne l'insécurité.
Oui.
En fait, j'ai suivi ce que vous avez lu comme le rapport sécuritaire au niveau de l'Est et de la RDC. Et aussi, nous avons appris qu'il y avait une forte tension entre la population et des groupes armés au niveau des Fizi. Et selon certaines sources, ce sont des Rwandais qui veulent vraiment faire fuir les autochtones pour récupérer la zone des Minembwe. Alors, mais dans votre rapport, je n'ai pas senti un accent particulier là-dessus. Apparemment, vous avez seulement effleuré. Pourtant, c'est une situation très sérieuse pour la RDC.
Alors, en effet, c'est une situation qui est sérieuse. Et pour vous dire, hier, la représentante spéciale a rencontré ici à Kinshasa le gouverneur de la province du Sud Kivu qui est venu la voir. Et évidemment, ils ont évoqué ensemble la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu. La MONUSCO, par rapport à Minembwe, est engagée depuis le début en fournissant un soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo dans les opérations, notamment un soutien logistique. On a également des équipes civiles qui vont sur le terrain pour essayer de remettre les communautés ensemble, d'initier des activités de dialogue. Donc oui, c'est une situation qui est préoccupante, mais j'ai cru comprendre quand même hier que dans les échanges entre la représentante spéciale et le gouverneur, il semblerait que la tension a quand même fortement diminué ces derniers jours. On reste ici à Kinshasa pour une deuxième question. Est-ce que Goma a des questions à poser? Oui, je vois qu'une main se lève. Maintenant, le défi, c'est de savoir si on va vous entendre. Allez, on essaye.
Merci. C'est Valérie Mkosasengye pour le groupe de presse La République. J'adresse ma question à Mathias de l'OMS. C'est en rapport avec Ebola, avec la démission du ministre, le docteur Oli Lunga. Dans sa correspondance, il a bien signifié qu'il faisait allusion à un autre vaccin qu'on comptait administrer aux populations de Beni et Mbogoma. Et il a dit qu'il a fait référence à l'ancien arrêté où il avait demandé de ne plus administrer un autre vaccin. La crainte aujourd'hui est que la population serait prise comme des cobayes. Comment analysez-vous cette réaction?
Oui, d'abord, je voudrais clarifier, monsieur, merci pour votre question. Je ne représente pas l'OMS, je représente l'équipe pays, c'est-à-dire... Je partage quelques éléments de toutes les agences, fonds et programmes, y compris l'OMS, mais je ne m'exprime pas au nom de l'OMS. Concernant les derniers développements avec le ministre de la Santé, vous le savez, nous avons travaillé en très bonne intelligence et en bonne coopération avec le ministre de la Santé. Et notre mandat, comme notre mandat, en fait, nous y oblige. Donc nous travaillerons dans un même esprit de bonne intelligence et de coopération avec la structure qui va prendre le relais pour diriger la riposte Ebola du côté des autorités congolaises. En ce qui concerne les vaccins, c'est une décision là aussi qui est au niveau national. Ce sont les autorités compétentes, les autorités souveraines du Congo, les autorités sanitaires nationales qui prennent ce type de décision. Sur la base de recommandations d'un comité éthique qui est là aussi national. Donc je n'aurai pas de commentaire à faire sur les déclarations du ministre. Merci.
Nous restons à Goma pour une autre question. Allez-y.
Merci, c'est Albert Kambal pour l'agence. Ma question s'adresse normalement, comme c'est Florence qui a présenté non, l'autorité au Nord Kivu et pays, il y a deux cette question. Un certain temps, à Mango Kouombaou, à Kassane Rugeti, à Oichama Basseli, on ne voit pas la brigade faite comme il y a des temps qui sont passés. Vous voyez toujours la brigade par décès, à prier, et dans ces trois dernières attaques, hier, la montée n'a pas été visible. On peut dire que la FIB a rompu ce mariage avec.
Oh non, je suis désolée de vous couper, mais je crois que vous n'aviez pas le bon micro et on a vraiment pas bien compris la question, mais peut-être que voilà, si vous pouviez mais en version courte, s'il vous plaît.
Je peux la reprendre, oui, si vous m'entendez
mais,
bien.
Je suis Albert Kambal
pour l'agence France Presse. Il y a eu trois attaques meurtrières dernièrement à Beni. C'était à Mbao Mangoko, à Uta Papasele et à Ringet Kassana. Les FARDC se sont battus, ont défendu, malgré qu'il y ait tuerie. La population dit ne pas avoir vu la brigade de la MONUSCO aux côtés des FARDC comme dans l'ancien temps. Alors, la question est la suivante. Pouvons-nous dire que la brigade, la FIB, a rompu son mariage ou son soutien aux FARDC? Merci.
Alors, je vais prendre la première partie de la réponse et puis le colonel me complétera. En effet, nous assistons depuis quelques jours à une recrudescence des attaques perpétrées par des présumés éléments des ADF. Et cette violence est inacceptable et nous la condamnons fermement. Nous suivons cette situation avec attention et je peux vous assurer que, contrairement à ce que vous avez pu observer, nos relations avec l'état-major congolais sur place sont étroites. Nous travaillons ensemble, à la fois pour recueillir des signaux d'alerte, mais aussi pour préparer des opérations pour neutraliser les ADF, comme cela, souvenez-vous, a été le cas en novembre dernier. La réponse à la menace EDF ne revient toutefois pas à la seule MONUSCO. Il s'agit d'associer la MONUSCO, nos partenaires militaires congolais et tous ceux qui peuvent couper les lignes d'approvisionnement des ADF. Alors, concernant la question plus précise relative à la brigade d'intervention de la force, je peux vous assurer aussi qu'elle poursuit la mise en œuvre de son mandat avec deux priorités, oui, la neutralisation des ADF, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, la sécurisation des espaces où sévit l'épidémie à virus Ebola. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Je peux aussi rajouter une information à ce sujet, qu'il n'existe pas de réponse purement militaire aux questions d'insécurité. Et en complément des patrouilles et opérations menées par la force, la MONUSCO développe des activités visant à la cohésion sociale au sein et entre les communautés. Et je vais vous donner juste un exemple d'une activité qui vient de commencer. Ce sont des séances de dialogue qui se déroulent dans la zone de Beni Nord. 45 participants, qui sont des représentants de la société civile, des communautés et des autorités locales, échangent autour de questions qui leur semblent prioritaires par rapport à leur sécurité. Et lors de la première séance qui s'est déroulée à Boulongo, dans la collectivité de Rouvenzori, l'échange a porté autour de la question de l'accès à l'eau potable. Alors, il est prévu que de telles séances soient organisées une fois par mois, sur une période de 8 mois, dans 5 endroits différents de la zone de Beni Nord. Après chaque séance, un comité ad hoc travaillera sur les recommandations issues des échanges et se chargera de les relayer à travers des canaux et plateformes existantes et reconnues par les autorités. Donc, nous sommes présents dans le territoire de Beni et nous continuons à travailler en soutien aux forces de sécurité congolaises, à la fois pour la neutralisation des groupes armés, les ADF, mais aussi les groupes Mamaï. Mais nous avons aussi notre mission de protection de la zone sous la menace de l'épidémie à virus Ebola. Voilà ce que je pouvais répondre, mais peut-être que le colonel a un ou deux éléments à compléter à Goma.
Allez-y. La force de la MONUSCO n'est pas absente, la brigade n'est pas absente. C'est vrai que la brigade a son mandat, mais la MONUSCO, la force de la MONUSCO et la brigade travaillent ensemble aux côtés des FARDC. En ce qui concerne l'opération menée par les FARDC, l'opération a été planifiée et dans la planification, il est dit que en cas de besoin, la MONUSCO, les forces de la MONUSCO interviendraient en soutien ou bien en appui. Et dans ce cadre, effectivement, il y a eu l'intervention des d'attaques de la MONUSCO sur demande des FADC. Alors, c'est lorsque la demande a été effectuée que les hélicoptères d'attaque sont rentrés en jeu. Sinon, sur le terrain, effectivement, ce sont les FADC seuls qui ont mené les opérations telles qu'elles ont été planifiées. Donc, la MONUSCO n'est pas absente. Voilà ce que je peux vous dire.
Merci. On reste à Goma si vous avez encore une question pour nous. Alors, et on refait passer le même micro un petit peu vite, s'il vous plaît. Voilà.
Oui, je m'appelle Christophe Bunga, au compte de l'Agence congolaise de presse ACP. Ma première question s'adresse à Florence. Je voulais voir la pomme de discorde de troubles de haut plateau. Jusque-là, on ne connaît pas le vrai problème. Il faudrait, comme vous avez essayé de sur la question, de donner le vrai problème. Et la deuxième question, je déplore d'abord le fait de n'avoir pas invité à cette vidéoconférence aujourd'hui quelqu'un de l'OMS pour qu'il nous parle du vaccin, soit le professeur docteur Mouyembe, afin qu'il éclaire, parce que jusqu'à l'heure où nous sommes, on ne sait pas de quel vaccin on va inoculer à la population. Ce matin, RFI en a parlé, tout un embrouillon sur le vaccin, et on ne sait pas que disons la durée de conférée par ce vaccin. Mathias.
Oui, je vais vous répondre. Il y a un vaccin qui est actuellement utilisé, toujours le même depuis un an, qui est un vaccin hautement efficace, avec un taux d'efficacité à 97,5%, et c'est pour l'instant le seul vaccin qui est utilisé. La discussion sur d'autres vaccins qui éventuellement pourraient être utilisés, comme je l'ai dit, revient aux autorités sanitaires congolaises. L'OMS effectue un travail de conseil, mais ce sont les autorités sanitaires congolaises qui l'utilisent. Mais à ce stade, il y a un seul vaccin qui est utilisé et qui a été utilisé depuis un an, donc, pour vacciner plus de, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois, plus de 170 000 personnes. Et ce vaccin a un taux d'efficacité à 97,5%. Et son approvisionnement ne semble pas poser problème pour le moment. Donc, voilà, j'espère que ça clarifie ces inquiétudes sur l'utilisation du vaccin.
Et concernant les hauts plateaux, je me réfère encore une fois à la rencontre qui s'est déroulée hier entre la représentante spéciale du secrétaire général et le nouveau gouverneur de la province du Sud-Kivu. Et d'après les informations qui m'ont été communiquées par Mme Zerougui après leur rencontre, il a été fortement question du problème foncier qui est l'une des causes profondes du conflit récurrent dans cette zone. Nous revenons ici à Kinshasa, puisque certaines personnes nous ont rejoints et sont disposées à poser des questions. On y va, allez.
Guy Oloume, RTNC de développement. Florence, Ebola, urgence sanitaire internationale, déclarée récemment par l'OMS. Que peut-on conclure? Cette 10e frappe ou reprise du virus Ebola s'inscrit-il dans la durée? Est-il plus dangereux et complexe que l'épidémie qui a frappé la 9e fois Djera à l'Équateur? Merci.
Ça va être pour Mathias.
Si vous voulez bien. Le comité spécialisé de l'OMS, qui est en charge de déclarer ou non une urgence sanitaire de portée internationale, a effectivement décidé la semaine dernière, compte tenu de l'expansion du virus, compte tenu du fait que le virus continue de tuer en République démocratique du Congo, et on sait qu'il y a eu quelques cas qui ont traversé du côté ougandais, il y a un cas qui est arrivé à Goma, et donc compte tenu de cette situation, ce comité spécialisé a pris la décision de déclarer cette urgence sanitaire de portée internationale. Ce sont des recommandations qui sont ensuite faites par ce comité pour voir comment on peut mieux lutter contre Ebola et qui peut aussi permettre de mobiliser des fonds internationaux supplémentaires de manière plus rapide ou en tout cas donner une impulsion internationale à la riposte Ebola. Mais ces recommandations seront revues dans 3 mois. La dimension, encore une fois, internationale de cette urgence sanitaire n'est donc pas similaire à celle à laquelle vous avez fait référence. Mais c'est donc ce comité qui fait une recommandation au directeur général de l'OMS et le directeur général de l'OMS l'accepte. Donc le directeur général de l'OMS a accepté cette recommandation. Je vous encourage à lire la totalité de la déclaration qui expose exactement ce en quoi cette déclaration consiste et qui notamment réaffirme que des restrictions de voyage ou des restrictions de commerce dans le déplacement des populations ne sont pas à mettre en place car elles seraient au contraire contre-productives. Donc voilà, je vous encourage à lire la totalité des conclusions de ce comité et encore une fois, les recommandations qu'ils ont faites seront revues dans 3 mois.
Merci, nous restons ici à Kinshasa. Alain.
Merci Florence, Alain Mouzi pour la radio ECC. Ça fait plus de 6 mois que les nouvelles autorités sont à la tête du pays. Aziz, en ce qui concerne les tendances sur les droits de l'homme, comparativement aux anciennes autorités, est-ce que il y a amélioration ou quelle lecture faites-vous des nouvelles autorités en ce qui concerne les droits de l'homme?
Apparemment, vous êtes venu à la fin de ma présentation parce que j'ai annoncé une bonne nouvelle qui apparemment a tétanisé tout le monde parce que je n'ai pas eu de questions du tout pour cette conférence de presse. Je crois que oui, effectivement, j'avais annoncé au mois de février, qu'il y avait quelques tendances intéressantes, mais qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions. C'était la déclaration que j'avais faite à l'époque. Donc ici, sur la base de chiffres concrets, je suis venu apporter l'information confirmée effectivement qu'il y a eu une baisse, une légère amélioration de la situation des droits de l'homme, aussi bien pour les zones affectées par le conflit, mais également pour ce qui est des zones non affectées par le conflit et plus précisément pour tout ce qui relève de l'espace démocratique. Donc il y a des améliorations qui se traduisent par une baisse d'environ 8% des violations comparées à la même période de l'année 2018, ce qui est effectivement à mettre à l'actif des nouvelles autorités. Donc nous espérons effectivement qu'il y a beaucoup de choses à faire. La baisse, elle est relative, elle n'est pas extrêmement importante, mais c'est quand même assez intéressant pour être souligné. Nous espérons que les efforts que nous avons vus jusqu'ici vont être maintenus et consolidés en vue réellement que l'éclaircie, la belle éclaircie que nous entrevoyons puisse se confirmer et se perpétuer. Merci.
Oui. Alors, très courte, il nous reste une minute.
Je reviens, c'est le petit Bayende. Donc, ma question, je vais dans le même sens que mon confrère. En fait, vous parlez d'une baisse de 8% seulement par rapport aux manifestations publiques. Mais ce que nous observons, nous autres, on trouve que la situation a beaucoup amélioré. Mais quand vous parlez de 8% seulement, je ne sais pas pourquoi.
Ben écoutez, nous travaillons sur la base d'informations documentées. Okay? Ce que nous vous disons, c'est qu'il y a une baisse de 8%. Nous comparons cette année au premier semestre de 2018. Et on connaît ce qui s'est passé pour le premier semestre de 2018. Donc nous étions en pleine période d'incertitude par rapport au contexte électoral, avec des vagues de manifestations. Donc, s'il y a une amélioration pour la première période de l'année 2019, évidemment, ça veut dire que nous sommes sur une bonne tendance. Mais les tendances prennent du temps à se confirmer, donc la réduction, elle est encore timide. Il y a eu des améliorations. J'ai même dit que dans les provinces affectées par le conflit, le nombre de violations a diminué. Même si les FARDC restent en tête en termes de violations commises, mais le nombre attribué au FARDC a aussi diminué. Donc, pour dire que de façon générale, on note des améliorations à tous les niveaux. Donc, il faudrait que cette amélioration-là puisse se confirmer dans le temps et puis avec les efforts du gouvernement. Ça ne veut pas dire que tout est rose, mais il faut continuer à persévérer. Voilà.
Merci Aziz, merci à tous ici à Kinshasa, à Goma, les auditeurs pour votre participation à cette conférence de presse. Belle journée à tous et à toutes.